Bonjour. Je vais vous faire un aveu. Il n'y a aucun mal à livrer nos confidences. Quand Paul m'a téléphoné, c'était vendredi matin, pour me dire « voilà ce que je compte évoquer dans mon introduction, c'est-à-dire la question de la souffrance », je me suis dit « quelle drôle d'idée pour un mois d'août ». Et puis, très sincèrement, puisque moi, le vendredi, c'est encore très loin du moment où je me pose la question de ce que je vais bien pouvoir raconter le dimanche matin, vous le savez. Et très naturellement, cette idée s'est imposée à moi. Et je trouve que ça n'est pas du tout, un mauvais choix que tu as fait. Parce qu'effectivement, je vais vous dire, j'ai rencontré tellement de chrétiens qui font Danny Boone, mais en vrai, vous savez. Danny Boone, je vais bien, tout va bien, puis il y a les sanglots qu'il a du mal à retenir. Il y a tellement de chrétiens qui fonctionnent comme ça, en étant dans l'auto-persuasion, ce qu'on appelle vulgairement la méthode Coué. C'est-à-dire, j'essaye tant bien que mal de me convaincre que la vie est un long fleuve tranquille, et en réalité, je suis à un cheveu de craquer. Craque, vas-y. Alors, j'ai trouvé un... Alors, c'est pas difficile de trouver des merveilles quand on ouvre la Bible, et j'ai trouvé une perle que vous connaissez sans doute. En la matière, je dis une perle parce que c'est à la fois un mini-traité de philosophie, de théologie et de psychologie. Et ça évoque très bien le sujet, c'est le psaume 107. José, je t'ai pas prévenu avant, mais c'est le psaume 107 que je vous propose de lire. Célébrez le Seigneur car il est bon. Alors moi, je préfère dire « car il nous aime », parce que le mot hébreu, c'est le mot « amour ». C'est le mot aussi qui veut aussi dire « amour ». Car sa fidélité, enfin son amour aussi, c'est un autre mot, est pour toujours. Qu'il le redise ce que le Seigneur a défendu, ce qu'il a défendu contre la main de l'adversaire, qu'il a rassemblé de tous les pays, du levant et du couchant, du nord et de la mer. Certains s'étaient égarés dans les solitudes par un chemin désert, sans trouver de ville habitée, affamés, assoiffés, la vie les abandonnait. Ils crièrent vers le Seigneur dans leur détresse, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il leur a fait prendre un chemin direct pour aller vers une ville habitée. Qu'ils célèbrent le Seigneur pour sa fidélité et pour ses miracles en faveur des humains, car il a désaltéré le gosier avide, et il a rempli le ventre affamé. Certains habitaient dans les ténèbres et dans l'ombre mortelle, prisonniers de la misère et des fers, car ils s'étaient révoltés contre les ordres de Dieu, ils avaient nargué le dessein du Très-Haut. Il a dompté leur cœur par la souffrance, ils ont flanché et personne ne les aidait. Ils crièrent vers le Seigneur dans leur détresse, et il les a sauvés de leurs angoisses. Il les a tirés des ténèbres et de l'ombre mortelle, il a rompu leurs liens. Qu'il célèbre le Seigneur pour sa fidélité et pour ses miracles en faveur des humains, car il a brisé les portes de bronze et il a fait sauter les verrous de fer. Certains... abrutis par leur dérèglement, avilis par leur péché, étaient dégoûtés de toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Ils crièrent vers le Seigneur dans leur détresse et il les a sauvés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole pour les guérir et les soustraire à la fosse. Qu'ils célèbrent le Seigneur pour sa fidélité et pour ses miracles en faveur des humains, qu'ils offrent des sacrifices de louange et proclament ses œuvres en criant de joie. Ceux qui partent en mer sur des navires et exercent leur métier sur les grandes eaux, ceux-là ont vu les œuvres du Seigneur et les miracles en haute mer. À sa parole s'est levé un vent de tempête qui soulevait les vagues. Ils montèrent aux cieux, descendirent aux abîmes, ils étaient malades à rendre l'âme. Ils roulent et tanguent comme l'ivrogne, et toute leur adresse est engloutie. Ils crièrent au Seigneur dans leur détresse, et il les a tirés de leurs angoisses. Il a réduit la tempête au silence, et les vagues se sont tues. Ils se sont réjouis de ce retour au calme, et Dieu les a guidés au port désiré. Qu'il célèbre le Seigneur pour sa fidélité et pour ses miracles en faveur des humains, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et le loue à la séance des anciens. Il peut changer les fleuves en désert, les sources en pays de la soif. une terre fertile en saline à cause de la méchanceté de ses habitants. Mais il peut aussi changer le désert en nappe d'eau et la steppe en source, y faire habiter des affamés qui fondent une ville habitable. Ils ensemencent les champs, plantent des vignes et en récoltent les fruits. Il les bénit et ils se multiplient. Ils ne laissent pas leur cheptel s'amoindrir. Puis ils diminuent et déclinent sous les privations, le malheur et la douleur. Il répand le mépris sur les nobles et les égare dans un maquis sans chemin. Mais il protège le pauvre de la misère et rend les familles aussi nombreuses que les troupeaux. À cette vue, les hommes droits se réjouissent et toute injustice ferme la bouche. Qui veut être sage, qu'il prenne garde à tout cela et que l'on discerne les manifestations de l'amour du Seigneur. Alors, il y a beaucoup à dire, beaucoup trop, sur ce texte qui est extrêmement riche, et donc, pardon d'avance, mais ça va être un survol. Je disais, à la fois manuel de théologie, manuel de philosophie, manuel de psychologie, ceux qui me connaissent le savent, mais bien avant qu'un certain Jean-Paul Sartre ait décrété que l'existentialisme ne pouvait être qu'athée, il y a un autre philosophe, donc qui lui était antérieur, alors avec un nom beaucoup moins facilement prononçable, puisqu'il était danois, qui s'appelait Søren Kierkegaard, qui avait écrit alors un certain nombre d'ouvrages, qui de la vie générale, l'inventeur de l'existentialisme chrétien, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages, dont un que je vous recommande, qui s'appelle « L'école du christianisme », c'est magnifique, et aussi un ouvrage un peu plus difficile d'accès, qui s'appelle « Le concept d'angoisse ». Et donc, puisque vous avez entendu que ce texte était rythmé avec des couplets et des refrains, à chaque fois, il y est question de l'angoisse, et c'est là-dessus qu'il faut se pencher. Là-dessus qu'il faut se pencher en constatant que, d'abord, alors, pour les gens qui ont écrit et qui ont lu et entendu ces textes, il y a une question philosophique qui ne se pose pas, mais qu'aujourd'hui tout le monde pose, parce que si vous lisez ça à votre collègue de bureau ou à votre voisin de palier, il va vous dire, il y a tout de suite, je t'arrête tout de suite, il y a quelque chose qui ne va pas. On répète à longueur de temps, de la première à la dernière phrase, que Dieu est bon, et on dit que les humains sont, disons, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et que les humains sont en permanence, en tout cas, ça semble être le catalogue de tous les ennuis possibles et imaginables, sont en permanence tourmentés par des souffrances, des problèmes, des choses négatives. Alors, vous l'avez entendu, je l'ai entendu mille fois, la problématique du « mais Dieu est tout-puissant ». Bon, d'accord, il est bon, c'est entendu. Alors, s'il est tout-puissant et s'il est bon, pourquoi est-ce qu'il nous arrive tout ça? Et pourquoi, quand on allume la télé à l'heure des infos, on ne voit pas des petites fleurs, l'inauguration de la foire agricole, et pourquoi est-ce qu'on voit autant de morts, autant de guerres, autant de désastres, autant de, disons-le, de manifestations du mal? Encore une fois, pour les gens de l'époque, cette question-là ne se pose pas. Et il n'y a aucun problème pour le psalmiste à dire « oui, Dieu est Dieu, oui, il est bon », c'est-à-dire il est amour, c'est ce qu'on a entendu dimanche dernier, il est toujours comme ça, ça dure pour toujours, donc il n'y a pas de parenthèse dans la manifestation de son amour, et pourtant la condition humaine, elle est celle-là. Alors, c'est globalement le problème du mal, ça n'est pas mon propos de le traiter aujourd'hui, simplement, dans la compréhension que ces gens-là ont du monde, qui est la compréhension biblique, eh bien, on sait que, pour revenir au texte fondateur, on sait que Dieu n'a pas eu besoin, malheureusement, et il ne l'aurait pas fait de toute façon, de dire que l'obscurité soit. Il a eu besoin de dire que la lumière soit. Mais l'obscurité, elle était déjà là. Alors les ténèbres, pour prendre le mot classique, il y avait déjà les ténèbres au-dessus de l'abîme. Ça commence comme ça, la Genèse. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il y avait des ténèbres. Pourquoi ? Ben parce que là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas rien. Là où il n'y a pas Dieu, il y a le contraire de Dieu. Dieu, il est lumière, donc là où il n'est pas, il n'y a pas de lumière. Mais pas de lumière, c'est pas rien. C'est les ténèbres. Dieu est amour, donc là où n'est pas Dieu, il n'y a pas rien. Il y a le contraire de l'amour. Parce que sinon... Alors, l'idée complètement absurde, c'est de penser que le mal est entré dans le monde à cause de l'homme. C'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit que la faute est entrée dans le monde à cause de l'homme. Par un homme, la faute, le péché, si vous voulez, est rentrée dans le monde, mais pas le mal. Avant que l'être humain choisisse le mal, il y a dans le jardin l'arbre de la connaissance de quoi ? Du bien et du mal. Et quand Dieu a dit à Adam, ça c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il aurait dû répondre, mais les bois, ça veut dire quoi, le mal ? Ça c'est ce qu'Adam aurait répondu, c'est quoi ce concept ? C'est ce qu'Adam aurait répondu si c'était sa faute qui avait fait entrer le mal dans le monde. Sa faute, elle a fait entrer la faute, précisément, le péché, et donc la mort. Mais potentiellement, tous les ingrédients étaient là. Et la preuve que la mort était déjà là, c'est qu'il y avait un arbre de vie. À quoi ça sert un arbre de vie ? S'il n'y a pas la mort, coupez-moi cet arbre, mettez-moi du gazon. Donc, cette idée, c'est pas neutre, c'est le cas de le dire, c'est pas neutre de rappeler ça parce que il faut se souvenir que, enfin, il faut avoir, pas se souvenir, avoir présent à l'esprit que partout où il n'y a pas Dieu, il y a le mal. La seule manière d'évacuer le mal, c'est de donner cette place-là à Dieu. C'est pour ça que le message biblique est terriblement difficile à faire passer aujourd'hui où on a tendance à vouloir croire que tout est gris, gris clair ou gris foncé, plus ou moins. Mais quand Jésus dit « celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas divise », tout ça, ça veut dire que là où il y a le vide de Dieu, voilà, ça se résume comme ça, le vide de Dieu n'est pas neutre. Et donc l'idée que le mal est là, parce que, encore une fois, Dieu va, je reviens à la création, vous savez que c'est mon dada, mais à chaque fois qu'il va mettre quelque chose, mettre une trace de lui, donc du coup qui porte son identité, il est la lumière, donc il va mettre la lumière, et il va dire, ça n'est pas comme le reste du vide de moi. Dans le vide de moi, j'ai mis une trace de moi, et donc ça n'est pas mauvais. Et il va être obligé de le dire à chaque fois. C'est bon. Et quand il va faire l'homme, qui porte son image, il va prendre la peine de dire pour la septième fois, c'est très bon. C'est très bon, ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire, il est beau, le mec que j'ai fait. Ça veut dire, ça porte ma trace. Ça veut dire, ça n'est pas l'absence de moi complètement. Et donc, on est en permanence immergé dans un monde, et c'est pas moi qui le dis, sinon ça vaudrait rien, c'est Jésus qui le dit, qui n'est pas la présence de Dieu permanente, et qui n'est pas non plus neutre par rapport à ça. C'est-à-dire que, encore une fois, là où il n'y a pas Dieu, là où il n'y a pas la lumière, il y a les ténèbres. Avant même, ça n'a pas besoin de se créer, ça se crée négativement par le vide, par le creux de Dieu. Et là où il n'y a pas Dieu qui est amour, il y a le creux de l'amour, c'est-à-dire le mal. Donc ça, Enfin, c'est un préambule que je veux faire parce que nous sommes confrontés, je pense que vous l'êtes autant que moi, tous les jours, à des gens qui vous disent « c'est bien sympa ta foi en un Dieu bon, machin, etc. » Mais allume la télé, quoi. Regarde le journal télévisé et viens après me dire qu'il y a quelqu'un qui est tout puissant et qui est bon. Alors là, effectivement, on est d'accord sur un point, c'est que s'il n'est pas tout puissant, ça ne vaut pas le coup de s'y intéresser, parce qu'il n'est pas Dieu, du coup. Et s'il n'est pas bon, c'est-à-dire si notre sort, il s'en fout, ben alors que ce soit réciproque, qu'on ne s'intéresse pas plus à lui qu'il s'intéresse à nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que, au contraire, dans cette absence de lui, qui est au départ la création, il veut mettre la trace de lui de plus en plus. Et ça passe par la condition humaine, qui est résumée là dans un certain nombre de choses. Et alors, je m'empresse de dire que dans ce tableau apocalyptique de tout ce qui peut arriver de détestable à des êtres humains, je ne sais pas si vous l'avez remarqué au passage, mais il y a plusieurs fois le mot « joie ». Parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et je n'y reviens pas, c'est ce qu'on dit magnifiquement Paul et les musiciens et chanteurs, c'est que la joie que Dieu donne, il la donne dans le fait de surmonter avec lui et seulement avec son aide la condition humaine. Alors, très brièvement, et pour que ça soit brièvement, sortir la montre, parce que sinon... Un truc là. Voilà. Vous l'avez peut-être remarqué, dans ce texte, il y a quatre strophes qui illustrent bien. Merci. Et ça sonne quand il y en a marre, c'est ça? D'accord. Merci, José. Il y a quatre strophes qui sont tout à fait emblématiques, qui résument bien ce que nous, les uns et les autres, pouvons traverser. Alors, effectivement, du point de vue de la civilisation, on se sent très éloigné de ces gens-là, on ne vit pas comme eux, on n'a pas le même mode de vie, pas la même culture. Voilà. N'empêche que la condition humaine dont je parlais tout à l'heure, elle est toujours la même pour tout le monde. Et si c'est aussi fin psychologiquement, c'est pas un hasard. Alors, je reprends brièvement les quatre strophes. Certains se sont égarés dans les solitudes, dans un chemin désert, sans trouver de ville habitée, affamés, assoiffés, la vie les abandonnait. La première des difficultés, on va parler comme ça, on pourrait dire le mot souffrance aussi, la première des difficultés que peut rencontrer un être humain, que va nécessairement rencontrer un être humain dans le cours de sa vie, quand je dis être humain, j'inclus les chrétiens, qui, au cas où il y en a qui en douteraient, sont aussi et encore des êtres humains. La perte des repères. Il y a des moments dans la vie, et il y a des gens autour de nous qui ne savent plus où ils en sont. Le désert, c'est l'exemple type de ça. Tout le monde a un minimum de culture biblique ici, et donc tout le monde sait qu'une balade qui, mécaniquement, aurait dû durer entre 10 et 15 jours, selon les analyses, a duré 40 ans. Ils se sont baladés 40 ans dans le désert à tourner en rond sur un territoire qu'ils auraient dû traverser, s'ils étaient allés en ligne droite, en moins de 15 jours. Donc, le désert, et il suffit d'y être allé une fois dans sa vie pour le savoir, c'est par définition l'endroit où on n'a pas de repère. Et je ne sais pas si c'est votre cas, alors je ne dis pas que vous traversez ça, mais je dis que dans votre entourage, si on fait un tout petit peu, dans notre entourage, si on fait un tout petit peu attention, donc famille, profession, loisirs, etc., il y a des gens qui en sont là. il y a forcément toujours des gens qui en sont là. Il y a des gens qui en sont à, justement, ne plus savoir où ils en sont, c'est-à-dire regarder en arrière, ça ne les renseigne pas, parce que souvent, on dit, les psychologues disent ça, regarde ton passé, tu sauras où tu es. Ben, essayer dans un désert, quand il n'y a plus rien, de vous retourner, ça ressemble étrangement à ce qu'il y a sur les côtés et devant, et donc ça ne vous renseigne pas du tout. Et ces gens-là, et c'est le texte qui le dit, hein, si on, faut regarder le texte dans les détails, ils se sentent seuls, perdus, et sans nourriture. Ces gens qui se sentent désorientés au sens le plus fondamental du terme, ces gens qui se sentent sans repère, ils ont besoin de quoi ? Ou plutôt, ils ont besoin de qui ? De deux choses, c'est encore une fois le texte. Il faut les guider, et alors je pourrais longuement aussi faire une digression sur la symbolique du désert, parce que nous, le désert, c'est sympa, c'est les 4x4, c'est le Paris-Dakar, c'est dans la symbolique de cette époque-là, c'est pas ça du tout. N'oubliez pas que l'expression bouc émissaire, le bouc émissaire, c'est un bouc, d'ailleurs c'est pas un bouc, c'est deux boucs, mais il y en a un des deux qu'on envoie dans le désert, comme, j'allais dire, c'est la part du mal. Le désert, dans la symbolique, c'est le lieu du mal. D'ailleurs, Jésus, quand il va affronter le mal, il ne va pas l'affronter en pleine ville. C'est pas au centre de Jérusalem, dans la rue principale, c'est dans le désert. Et l'épreuve de la foi, aussi bien pour Israël que pour Jésus, mais on peut multiplier les exemples, avec des prophètes et avec alors Jonas, avec qui vous voulez, c'est toujours dans le désert que ça se passe. C'est là qu'on affronte le mal. Et donc, on a besoin de quoi ? On a besoin, et là encore c'est le texte qui le dit, de Dieu et de personne d'autre. Parce que il n'y a que Dieu qui peut redonner l'orientation. L'expression double d'ailleurs, ta parole, c'est une lampe à mes pieds et c'est une lumière, on pourrait presque dire un phare sur ma route. C'est-à-dire que le seul qui peut nous dire à un moment donné de notre vie ou à aux gens qui nous entourent, voilà où tu es. Parce que avant de savoir où on doit aller, la première des choses, c'est voilà où tu en es. Et quelqu'un qui a perdu ses repères, il ne sait plus où il en est précisément. Vous n'avez jamais entendu personne dans votre entourage vous dire « je ne sais plus où j'en suis ». Ben moi, je peux vous dire que même parmi des gens qui font profession de d'être plus malin que les autres, j'ai entendu ça des dizaines de fois. « Je ne sais plus où j'en suis ». Eh bien, précisément, là, il n'y a que Dieu. Dans cette extrémité-là, qui peut dire « voilà où tu en es ». Et puis « voilà où tu dois aller ». Parce que c'est pas exactement la même expression. Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin, ça veut pas tout à fait dire la même chose. Ça veut dire « voilà, je te montre où tu es et je te montre où il faut aller ». Et donc, aller vers quoi ? Aller, dit le texte, vers une ville habitée. Parce qu'encore une fois, ils sont désorientés, ils sont isolés et ils ont faim. Alors, tout ça au sens, au deuxième sens du terme, au sens symbolique du terme, ils ont faim. Et là, Dieu dit, je suis tout puissant, donc reste au milieu de ton désert et je vais te faire un parachutage de bouffe, tu vas voir, tu vas te régaler. Pas du tout. Voilà où il faut aller. Voilà où est la ville avec des gens qui habitent. Et ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Enfin, c'est nous quand on n'est pas en train de traverser le désert, mais c'est nous en temps normal. C'est nous l'Église, c'est nous les disciples de Jésus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu, il opère un miracle en disant à celui qui est isolé, perdu et affamé, je suis là et je t'envoie vers les autres. Et les autres, c'est nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, d'abord, quand il nous arrive, parce que nous les chrétiens, on est là pour les autres traversent le désert, mais pas nous, tiens, tu parles. Nous aussi, on traverse des déserts. Alors sachons l'admettre, sachons le reconnaître, et quand on est sur le sable du désert, arrêtons de faire semblant d'être à la plage, ça c'est agaçant. Je vais bien, tout va bien. Oui, c'est ça. Vas-y, pleure. Et donc, on est aussi, quand on va mieux et quand on va bien, on est aussi la ville habitée pour les autres. C'est-à-dire, on doit aussi être capable d'accueillir aux portes de notre ville, de la ville que nous sommes tous, collectivement et individuellement. On doit être aussi capable d'accueillir les autres, c'est-à-dire ceux qui sortent du désert. Parce qu'en même temps que Dieu leur dit « voilà où tu es, voilà où tu dois aller », il est censé nous dire à nous, enfin, il n'est pas censé, il nous dit à nous, et on est censé l'entendre, si on veut bien l'écouter, « je t'envoie machin pour que tu lui donnes à manger parce qu'il a faim, pour que tu lui donnes à boire parce qu'il a soif, et pour que tu lui tiennes compagnie parce que ça fait un moment qu'il se sent seul. » Simplement, ça, il faut écouter. Je ne suis pas en train de donner des leçons, je suis en train d'en prendre des leçons, hein. Faut être clair. Faut que j'écoute le Saint-Esprit, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, celui qui va me dire ça. Et il faut que je sois prêt aussi, parce que, ah, ben j'ai pas fait les courses, dis donc. Tu sors du désert, t'as faim, t'as soif, c'est ballot, j'ai rien à boire, rien à manger. Alors, ça peut être le cas d'une église, ça peut être le cas d'un individu aussi, ça peut être mon cas. Et là, évidemment, le Saint-Esprit dont je parlais il y a une seconde, ça va le contrarier un tout petit peu. Parce que s'il m'envoie à moi quelqu'un qui a traversé un désert et qui a besoin de boire, de manger, de compagnie et de repères, et que je suis capable de rien lui donner de tout ça, c'est clair, la prochaine fois, ça sera un autre. Hein. Pas faire deux fois les mêmes erreurs. Mais ce qu'il faut surtout qu'on pense, c'est qu'on est tous, un jour ou l'autre, susceptible de se retrouver au milieu du désert en disant « mais où je suis là ? Où je suis ? Il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de poteau électrique, il n'y a rien, il n'y a même pas une colline pour me repérer. Enfin, c'est quoi ce truc ? Je ne sais plus où j'en suis. » Et là, il y a un interlocuteur possible. C'est Dieu. Nous, on le sait. Ça serait bien que mon entourage, je ne parle pas pour vous, enfin si, je parle pour vous, ce serait bien que mon entourage le sache aussi, mais j'ai conscience que je ne le dis pas assez. Alors, deuxième, à ce rythme-là, on n'est pas sorti du désert, justement. Je passe à la suite. Certains habitaient dans les ténèbres et l'ombre mortelle, prisonniers de la misère et des fers, car ils s'étaient révoltés contre les ordres de Dieu, ils avaient nargué le dessein du Très-Haut. Il a dompté leur cœur par la souffrance, ils ont flanché et nul ne les aidait. Ils crièrent vers le donc ça c'est le refrain. Ils crièrent vers le Seigneur dans leur détresse et il les a sauvés de leurs angoisses. Et angoisse, ça revient à chaque fois. Détresse et angoisse, ça revient à chaque fois. Hein. Il les a tirés des ténèbres et de l'ombre mortelle. Il a rompu leurs liens. Qu'ils célèbrent le Seigneur pour sa fidélité et pour ses miracles en faveur des humains, car il a brisé les portes de bronze et il a fait sauter les verrous de fer. Là, autant... je vous ai dit, il y a quatre strophes, il y a quatre petites histoires comme ça. Ce que vous avez peut-être ou peut-être pas remarqué, c'est que dans deux cas sur quatre, Dieu y est pour quelque chose, et dans les deux autres cas, il n'y est pour rien. Celui qui se perd dans le désert, on ne dit pas « Dieu l'a égaré ». Là, on dit que Dieu a sa part. Comme conséquence... Ils s'étaient révoltés contre Dieu, ils avaient nargué les desseins du Très-Haut, et il a dompté leur cœur par la souffrance. C'est-à-dire que Dieu, et c'est là qu'on voit qu'il est souverain, c'est là qu'on voit qu'il est Dieu, il se sert, et ça aussi, ça ressort d'un certain nombre de textes bibliques dont je ne vais pas vous infliger la lecture, mais vous les connaissez aussi bien que moi, Dieu n'est pas à égalité avec le mal. C'est pas, comme on le croyait dans l'Antiquité, la guerre du bien et du mal à égalité de pouvoir, à égalité d'armes, à égalité de moyens. Dieu est supérieur au mal. Indiscutablement. Le sens de l'histoire, et c'est la Bible qui nous l'apprend, c'est que le mal va être vaincu, le mal va être anéanti. C'est une question de temps. Mais la défaite du mal et la victoire de Dieu s'est programmée irrévocablement, bien sûr. Et donc, pour utiliser une expression bien connue et bien abondamment rebattue dans les milieux chrétiens, le diable s'agite en fonction de la longueur de la laisse, mais c'est Dieu qui décide de cette longueur. Bien. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu utilise aussi le mal à des fins pédagogiques. Dieu utilise, alors il y a tout un tas de textes qui disent qu'il tourne le mal en bien, qu'il, voilà, et que du coup, le diable fait un travail qui le trompe lui-même. Parce que Dieu est capable de se servir même du travail du mal, à des fins pédagogiques. Alors bon, c'est parfois sévère, mais ce qui est en cause, c'est le salut des humains. Et ça mérite bien une petite leçon de temps en temps. En tout cas, moi, j'en ai besoin d'une petite leçon de temps en temps. Et donc là, encore une fois, on est à des années-lumière culturellement, civilisation, machin, tout ce que vous voulez. N'empêche que là, la conséquence de la révolte contre Dieu, c'est l'entrave à la liberté. C'est les fers, c'est les verrous. C'est le texte qu'il dit. Là, effectivement, et je dirais que Dieu n'a pas besoin de se forcer pour punir un être humain de sa révolte en le privant de liberté, puisque c'est la conséquence nécessaire. Quand on est en rébellion contre Dieu, parce que, ben, encore une fois, citer des choses connues de tous et connues par cœur, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais ça veut dire que la liberté, elle n'est que la vraie. Elle n'est que là où est le Seigneur. Donc, la rébellion contre Dieu, elle génère automatiquement, mécaniquement presque, une perte de liberté. On a l'impression que quand on s'affranchit de Dieu, parce que c'est ce que suggère le texte, on a l'impression que quand on s'affranchit de Dieu, on est plus libre, davantage libre. C'est évidemment l'inverse. Je ne veux pas revenir toujours à mon jardin d'Éden, mais c'est ça, c'est « vous serez comme des dieux ». Ah ben oui, tu as gagné de la liberté, tu vas mourir, dis donc. Ça, c'est de la liberté gagnée. Tu étais parti pour être vivant tout le temps, tu vas crever. Tu as gagné en liberté ? Non. Non, tu as même perdu beaucoup. Et c'est toujours comme ça, bien sûr. Bien sûr que c'est toujours comme ça. Bien sûr qu'à chaque fois que je dis, pour ce coup-ci, je vais me passer de Dieu. Hein. Bon, il donne des conseils, très bien, mais bon, de temps en temps, il faut respirer. Hein, donc je vais ouvrir un peu les fenêtres et puis je ne gagne pas de la liberté, là, j'en perds. Et là, c'est très clairement ce qui est dit par ce texte. Il s'était rebellé, il s'était retrouvé, et Dieu avait laissé faire pour que ce soit pédagogique, il s'était retrouvé privé de liberté. Et autant on est tout à fait capable, j'allais dire libre, mais ça va semer la confusion, on est tout à fait autonome dans le choix qu'on fait de perdre de la liberté, autant quand il s'agit de la regagner, on s'aperçoit qu'on ne peut plus. L'homme qui volontairement, parce que là c'est une question d'exercice de la volonté, l'homme qui volontairement se rebelle contre Dieu ou dit, bon, une autre fois, hein, les conseils, la Bible, machin, les trucs, l'homme qui choisit ça, il le choisit librement, parce que sinon on ne serait pas à l'image de Dieu. Bon, très bien. Mais le retour en arrière, là, la liberté, elle n'y est plus, précisément, puisqu'on l'a perdue. Alors, librement, je choisis un truc qui va faire que je me retrouve avec des fers, une porte cadenassée, enfin, prisonnier, quoi, aliéné. C'est la problématique de l'aliénation. Je vais vous dire une chose toute bête, mais c'est beaucoup plus facile de fumer librement la première cigarette que de décider que c'est la dernière. On est bien d'accord. Ben avec Dieu, c'est pareil, sauf que c'est amplifié. C'est-à-dire qu'on a choisi au départ un chemin qui n'est pas le sien, bon, entendu, on se retrouve dans une aliénation, forcément. Forcément, on a choisi de s'éloigner de la source de la liberté. Donc forcément, on est moins libre. Et comme on est moins libre, ben, on est moins libre de revenir en arrière aussi. J'en bois juste un petit pour faire plaisir, mais après j'arrête. Oui, ben, tu parles. Eh bien, là encore. Et voyez à quel point ces textes qui ont été écrits il y a des milliers d'années, à quel point ça nous parle, enfin en tout cas, peut-être que je vous saoule, mais à quel point moi ça me parle. Moi ça me parle, parce que c'est nous qui s'agit là. Et là encore, une deuxième fois, le texte nous dit, là il n'y a qu'un recours possible. Si tu veux faire sauter les verrous, si tu veux enlever les bracelets, les monottes presque, il n'y a qu'une personne que tu peux appeler. Parce que là, il n'y a pas de pote, il n'y a pas de copinage avec celui qui garde la prison. Enfin, on sait ce que c'est qu'une aliénation. On sait ce que c'est parce que peut-être qu'on le vit soi-même, peut-être qu'on a peut-être, et j'allais dire presque certainement, on a dans notre entourage, famille, amis, collègues de travail, des gens qui connaissent ça. Et on sait bien que, alors c'est pas facile, enfin, pour moi c'est pas facile de dire à quelqu'un, parce qu'aujourd'hui vous dites ça, vous passez pour un taré, mais c'est pas facile de dire à quelqu'un, il n'y a qu'une seule personne, non pas au monde, mais au-delà du monde, qui peut te sortir de ça vraiment, et c'est Dieu. Mais pourtant on sait, en tout cas on devrait savoir que c'est la réalité. Eux, ils ont crié vers Dieu, et Dieu a fait sauter les verrous. Là, pour le coup, la question ne se pose pas de savoir si les verrous sont trop solides ou pas. Pour Dieu, il n'y a pas d'expression du mal qui soit, mais qu'une pichenette de Dieu ne peut pas anéantir. Donc là, la question ne se pose même pas. À la seconde où l'homme appelle Dieu à son secours, quand vraiment il n'y a plus que Dieu pour répondre, mais bien sûr qu'à tous les coups, il est là, et pour une libération totale. Là encore, le texte est clair. Il faut que je passe à la troisième, parce que... Certains... Alors, le texte est un peu... La traduction est un peu folklorique, mais bon, quand même. Certains, abrutis par leur dérèglement, avilis par leur péché, étaient dégoûtés de toute nourriture et touchés aux portes de la mort. Ils crièrent vers le Seigneur dans leur détresse, et il les a sauvés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole pour les guérir et les soustraire à la fosse. Qu'ils célèbrent le Seigneur pour sa fidélité, pour ses miracles en faveur des humains. Qu'ils offrent des sacrifices de louange et proclament ses œuvres en criant de joie. On va un tout petit peu plus loin dans la descente aux enfers. J'ai plus envie de vivre. Vous avez déjà entendu ça? Moi, oui. Moi, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois dans ma vie. Et quand on sait que la personne qui vous le dit est sincère, c'est-à-dire qu'il y a un vrai risque de passage à l'acte, il faut être clair, ça fait froid dans le dos, comme on dit. Il y a des gens qui en sont là. Il y a des gens qui en sont plus à « je ne sais plus où j'en suis », mais qui en sont à « à quoi bon ?»« À quoi bon ?» Et descendre tellement bas, et c'est ce que dit le texte, qu'on finit par penser que c'est trop dur de vivre. C'est trop dur. C'est quand le poids de la vie fait qu'on se dit « pour se débarrasser de ce poids, il n'y a qu'une solution, c'est de se débarrasser de la vie », Là, Là, on n'est plus dans la littérature, on n'est pas dans le folklore, on n'est pas dans... Enfin, ça a toujours existé. À l'époque où ce texte a été rédigé, c'était vrai. Enfin, il y avait des gens qui en étaient là. Et j'allais dire, ils ne savaient certainement pas à quel point c'était prémonitoire. Je ne vous infligerai pas les statistiques en matière de taux de suicide. Alors, je sais bien que sur 10 qui se suicident, enfin, qui sont censés, il y en a 9 qui espèrent bien que ça ne va pas être fatal et que c'est un appel au secours, machin, tout ce que vous voulez. N'empêche que pour vider la boîte de médicaments ou pour se jeter du 7e étage, il faut quand même que la coupe soit pleine. Et ça, alors, j'espère que ça ne concerne personne ici, mais là encore, potentiellement, dans notre entourage, proche ou lointain, ça peut arriver, et pourquoi pas nous arriver. J'allais dire, on a le détail de l'intervention de Dieu. Ça fait 3 fois qu'on nous dit « ils appellent et Dieu répond ». Là, c'est beaucoup plus précis que ça. Parce que là, on est au fond du fond. Et donc, même Dieu n'a pas 50 moyens. Il envoie, c'est le texte, il envoie sa parole pour les guérir. Il envoie sa parole pour les guérir. Là, c'est la seule fois où on nous explique comment Dieu s'y prend. On sait ce que c'est la parole de Dieu, ou plutôt on sait qui c'est la parole de Dieu. Et là, il y a deux niveaux de lecture. Il y a, j'allais dire, la lecture pour l'époque, c'est-à-dire que tout ce que Dieu avait dit déjà à l'époque et tout ce qui en était écrit, ça pouvait effectivement guérir un être humain de cette fosse profonde dont il est question. Mais nous qui sommes, c'est le cas de le dire, après Jésus-Christ pour le coup, on sait que la parole qui guérit, elle a un nom, elle a une réalité à la fois humaine et divine. Et qu'il n'y a que lui parce que la parole a été faite chair, comme dira Jean, il n'y a que lui qui peut arracher un humain à sa propre volonté d'en finir. Et là encore, il le fait sans... il n'a pas envoyé sa parole pour essayer de les guérir. La parole, quand elle est reçue, la parole faite chair, surtout, quand elle est reçue, elle ne... C'est aussi un texte biblique. Elle ne peut pas ne pas produire son effet. L'échec n'est pas concevable pour la parole de Dieu, qu'elle soit écrite ou incarnée. Alors, on a vu que... Ah non, on n'a pas vu encore. Ouh là là. Quatrième, alors bon, je vais vite parce que ça fait toujours rigoler tout le monde quand je dis je vais vite, mais je vous assure que je suis sincère quand je le dis. Après, je m'aperçois que ça n'a pas marché, mais quand je le dis, je suis sincère. Ceux qui partent en mer sur des navires et exercent leur métier sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres du Seigneur et ses miracles en haute mer, à sa parole se leva. Alors là, à sa parole, donc c'est le deuxième cas où Dieu y est pour quelque chose. Hein. Donc, c'est Dieu qui instrumente le mal, et donc ça va être pédagogique. C'est-à-dire, il y a des choses à apprendre. À sa parole se leva un vent de tempête qui soulevait les vagues. Ils montent aux cieux, ils descendent dans l'abîme, ils sont malades à rendre l'âme, ils roulent et tanguent comme l'ivrogne, et toute leur adresse est engloutie. Ils crient au Seigneur dans leur détresse, et ils les tirent de leurs angoisses. Il a réduit la tempête au silence et les vagues se sont tues. Ils se sont réjouis de ce retour au calme et Dieu les a guidés au port désiré, qu'ils célèbrent le Seigneur pour sa fidélité et pour ses miracles en faveur des humains, qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et le louent à la séance des anciens. Moi qui ne peux pas aller aux îles de l'Hérin sans être malade à crever, je trouve que ce texte me parle, mais alors d'une force. Ça pose... ça nous interpelle, ça m'interpelle, parce que ça pose la problématique des limites de la capacité humaine. Ces gens-là, alors, eux, pour le coup, ils sont sur un navire, et pas comme moi, quand je suis obligé, à mon grand désespoir, d'y mettre les pieds, eux, c'est leur métier. C'est leur métier, c'est-à-dire, c'est des techniciens. Je ne sais pas si vous connaissez des marins, ou si vous en avez... voilà. C'est des gens qui maîtrisent... Alors, vous ne pouvez pas naviguer en haute mer si vous ne maîtrisez pas parfaitement la technique. Surtout à la voile. C'est moins vrai maintenant, mais, parce que maintenant, c'est des machines. Mais sur un voilier, chacun... Enfin, vous le savez sans doute, chacun a sa place, chacun a son rôle, il y a des choses qu'il faut faire. On sait très précisément... Les gestes sont d'une précision millimétrique. Bref... Des marins professionnels, des gens qui sont habitués à aller en haute mer, c'est des gens qui maîtrisent parfaitement la technique. Comme chacun d'entre nous, je ne vais pas dire que tout le monde est marin, comme chacun d'entre nous maîtrise certaines techniques. On est tous, alors, soit dans notre métier, soit dans notre, enfin, dans une activité ou l'autre, on est tous sûrs de maîtriser une certaine technique. Et puis, il y a un moment où, curieusement, bah ça ne suffit plus. Même pour des marins chevronnés, expérimentés, il y a un moment où ils sont aussi malades que moi, c'est le texte qu'il dit, et il y a un moment où la force, le vent est trop fort, la mer est trop forte, et donc, même si on est le meilleur marin du monde, on va prendre le bouillon, quoi, c'est clair, on va y rester. Puis à cette époque-là, sauvetage en mer, bonjour, hein, donc on sait que si on se retourne, l'affaire est pliée. Et, j'allais dire, aussi bien, j'allais presque dire professionnellement, mais surtout en tant que chrétien, et collectivement en tant qu'Église, il y a des choses qu'on sait faire. Il y a des choses qu'on sait faire, et puis à un moment donné, il faut accepter, et c'est ça la leçon, et c'est pour ça que Dieu intervient là-dedans. Quel que soit le domaine d'ailleurs, mais c'est aussi vrai en tant que communauté, il y a un moment où toute la technique du monde, ça ne suffit pas. Ça ne permet pas de maîtriser l'événement, parce que les choses sont trop fortes, trop violentes, pour que même avec la technique, on puisse y arriver. Ça dépasse les capacités humaines, quel que soit le niveau de ces capacités. Parce que... avant de crier, parce que imaginez-vous, c'est pas de la littérature, imaginez-vous sur un voilier en pleine tempête, donc chacun sait ce qu'il a à faire, chacun connaît son rôle, celui qui s'arrête de mouliner et qui commence à regarder au ciel en disant « Seigneur, ça va être ton tour », il se fait tout de suite rabrouer par les autres en disant « Dis-donc, il y a autre chose à faire que de... » Donc la décision... Je ne veux pas en rajouter, mais comprenons que la décision d'abandonner la technique, de lâcher prise, c'est le cas de le dire, et de dire, bon ça, de toute façon, on n'y arrivera pas. Avec notre savoir, avec notre technique, avec nos capacités, avec nos connaissances, avec notre expérience, parce qu'ils sont expérimentés, avec toute l'expérience qu'on a acquise au fil des années, on a cru qu'on allait s'en sortir, acceptons l'idée que non, on ne va pas s'en sortir tout seul. Donc ça, c'est une décision difficile à prendre, parce que, oui, non, mais on essaye encore, on essaye telle manœuvre, on essaye de mettre les voiles comme ça, le bateau en travers, le truc, le machin, on va peut-être y arriver. Non, il y a un moment où il faut dire c'est au-dessus de nos forces. Et là, on voit très, très clairement dans le texte que ce moment arrive. Et c'est ce que, je parlais de Kierkegaard au début, c'est ce qu'il appellerait, lui, le saut de la foi. C'est-à-dire, il y a un moment où il faut dire, maintenant, Seigneur, c'est toi ou c'est personne. Mais moi, je ne vais pas y arriver. Nous, on ne va pas y arriver. Alors, au secours. C'est humiliant de dire au secours dans un domaine qu'on est censé maîtriser, mais Seigneur, au secours quand même. Parce que là, j'y arrive plus. Et là, j'y arriverai pas. Et je peux faire les pieds au mur, ou on peut faire collectivement tout ce qu'on veut, ça, c'est pas à notre portée. Et là, Dieu dit, Dieu, qui avait... dit au vent de se lever, quand même, c'est écrit dans le texte. Dieu qui avait dit au vent de se lever, dit, maintenant que vous avez compris la leçon, maintenant que vous savez que Le fait d'être un marin chevronné, ça rend pas plus fort que la mer, ça rend pas plus fort que le vent. Maintenant que vous le savez, maintenant que vous savez que vous ne dominez pas le vent, mais que moi, oui, et que donc, il y a des moments où vous avez besoin d'un coup de main de ma part, alors là, c'est parfait, la leçon est acquise, on va pouvoir se calmer. Et il intervient immédiatement. Alors, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, parce qu'il faut que je m'arrête là, vraiment, que, oula, j'avais, il y a des milliers de choses à dire sur ce truc, c'est fou. Tant pis pour les notes. Vous avez, encore une fois, et si vous ne l'avez pas repéré au passage, je le rappelle, la joie revient systématiquement. Alors, systématiquement, je vais vous dire où. Verset 22, « Qu'ils offrent des sacrifices de louange et proclament ses œuvres en criant leur joie. » Verset 30, « Ils se sont réjouis de ce retour au calme. » Ça, c'est pour les marins. Hein. Donc, ils ont été dans la joie de ce retour au calme et Dieu les a guidés jusqu'au port désiré, parce qu'évidemment, il fait les choses jusqu'au bout. Et 42, c'est le dernier, oui, 42, à cette vue, les hommes droits sont dans la joie et toute injustice ferme sa bouche. On aurait presque pu traduire autrement, mais un gros mot, ça aurait fait tache dans la Bible. La joie des hommes après l'intervention de Dieu, ça clôt le bec, si on peut dire comme ça, du mal. Et ce qui nous est rappelé à la fin, c'est que il peut intervenir dans les deux sens. C'est-à-dire, puisque vous avez vu, il peut changer les fleuves en désert, les sources en pays de la soif, une terre fertile en saline à cause de la méchanceté des habitants. Donc, il peut utiliser le mal. Il n'est pas à l'origine du mal, mais il peut l'utiliser à des fins pédagogiques pour nous apprendre des choses. Mais il fait aussi l'inverse, c'est-à-dire que puisqu'il a ce pouvoir-là, il a le pouvoir de changer le désert en nappe d'eau, la steppe en source, de faire habiter des affamés qui fondent une ville habitable, qui ensemencent les champs, plantent des vignes et en récoltent les fruits. Et à ce moment-là, une fois que on a osé l'appeler, au secours Seigneur. Alors, il les bénit et ils se multiplient, ils ne laissent pas leur cheptel s'amoindrir, puis ils diminuent et déclinent sous les privations le malheur et la douleur. Ça, c'est ceux qui s'écartent de lui. Et il répand, alors, il y a toujours ce balancement, il répand le mépris sur les nobles et il les égare dans un maquis sans chemin. Mais il protège le pauvre de la misère et rend les familles aussi nombreuses que les troupeaux. Je vais m'arrêter là. On a, j'allais dire, comme chrétien, on a un devoir de vérité par rapport à soi-même et par rapport aux autres. Il y a des domaines dans lesquels le mensonge est à la fois inutile et pathétique. Inutile parce que si on ne va pas bien, ça se voit quand même. Encore une fois, je reviens à ce sketch, je vais bien, tout va bien, le type qui est au bord des larmes, bah non, quoi. Ce qu'on retient, c'est qu'il est en train de sangloter, c'est pas son discours, c'est sa réalité. Et donc, quand on en est là, notre réalité déborde de notre discours, et c'est pas notre discours qui passe, c'est la réalité des choses. Donc, j'allais dire, on a un devoir de vérité vis-à-vis, dans trois directions, vis-à-vis de nous-mêmes, parce qu'il n'y a rien de pire que de se mentir à soi-même. Ah non, mais je vais bien, ne vous inquiétez pas pour moi, ça va. Mentir aux autres, et puis mentir à Dieu, enfin, espérer, ce qui est de la folie, mais espérer faire croire à Dieu qu'on va bien, alors que on a désespérément besoin de l'appeler au secours, ben ça va quoi, pleure et appelle au secours. Et puis surtout, tant que tu feras croire à tout le monde, y compris à lui, comme si on pouvait lui mentir, à lui que tout va bien, ben ça t'empêchera de l'appeler. Donc soyons vrais et appelons-le. Et puis sachons être aussi pour les autres, cette ville habitée où il y a à boire, où il y a à manger, où il y a des relations, de la compagnie, et où ceux qui nous entourent et qui sont dans cet état ne sont plus ni isolés, ni perdus, ni assoiffés, ni affamés. Alors, j'ai beaucoup, vous en doutez, j'ai des années-lumière de progrès à faire sur tous ces terrains-là, mais ce que je retiens, c'est que ce texte-là commence par un mot qui parle, enfin bonté, mais l'amour de Dieu, et finit par un mot de la même racine, qui est la manifestation de l'amour de Dieu. Non seulement il nous aime, mais il le montre.